tout à fait pratique, hein, par rapport à l'investissement que demandait l'adhésion ou au CNEF ou à l'AFPF. Quel est l'investissement au niveau de temps? Est-ce que ça demande en fonction des rassemblements? Bref, est-ce que tu as quelques apports pratiques à donner? S'il y a des représentants, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Quelle va être leur implication et les exigences de la CNEF ou de la FPF?
C'est un peu général ta question. Disons qu'au minimum, l'union doit être représentée dans les assemblées générales, de part et d'autre. À la FPF, il y a une assemblée générale au mois de janvier, de 2 jours. C'est un week-end. Et au CNEF, il y a 2 assemblées qu'on appelle plénières, d'un jour chacune, dans les 2 cas en région parisienne. Ça, c'est, je dirais, le minimum en dessous duquel on est simplement aux abonnés absents. Très souvent ensuite, il y a une sollicitation pour qu'il y ait au moins 1 ou 2 représentants dans des commissions. Ça, c'est dans la FPF. Donc ça veut dire qu'une ou deux personnes, alors il ne faut pas que ce soit toujours la même, hein. De toute façon il y a des compétences particulières, une ou deux personnes soient présentes dans des commissions, radio, télé, aumônerie, etc. Du côté du CNEF, il n'y a pas ces mêmes exigences parce que le nombre des commissions est relativement restreint pour l'instant. Ceci étant, si vous avez à cœur un domaine, vous serez les bienvenus dans une commission. Et puis après, il y a tout ce que ça implique en termes de circulation d'informations quand même, dans les 2 cas. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'au niveau de l'organisation de l'Union, il y ait une capacité à transmettre des informations aux communautés et faire remonter des communautés des informations vers l'organisme choisi ou les 2 si vous êtes dans les 2. Mais comme je vois que vous avez des ministères transversaux, vous en avez combien de ministères transversaux? 2? 3 donc. Vous avez une certaine capacité de ce genre déjà éprouvée au milieu de vous. Je dis ça parce que pour la dimension de votre union, c'est pas mal. Je connais des unions plus grandes qui n'ont personne et c'est assez compliqué ensuite.
D'autres questions? Donc levez bien votre main, comme ça, si bien on peut vous voir.
J'ai bien compris l'intérêt que nos équipes peuvent avoir en termes de représentativité, en termes d'enrichissement mutuel au niveau des dialogues. J'ai eu quelques éléments de réponse quant à ce que nous pouvions apporter en tant qu'Église vis-à-vis de ces structures-là, et aussi quelques éléments de réponse concernant ce que la FPF ou le CNEF pouvaient nous apporter. Est-ce qu'on pourrait avoir d'une manière plus précise et pratique ce que peut nous apporter ces 2 structures dans notre vie quotidienne?
Alors, si je commence par la FPF, ça correspond peu ou prou aux différents services que j'ai mentionnés. Donc, présence protestante à la radio, à la télévision. Alors, vous allez me dire, ils ne vous ont pas attendu, hein. Ils le font déjà. Mais ça veut dire qu'ils peuvent intégrer dans les commissions, ils peuvent intégrer dans les émissions une présence mennonite. Alors, à la mesure aussi de votre taille. Ce n'est pas tous les 4 matins. Les aumôneries, le fait d'intégrer des aumôniers, prisons, hôpitaux, aux armées, c'est possible ça? Enfin bon. Etc. Juste pour l'anecdote, hein, vous savez que les baptistes ont colonisé l'aumônerie aux armées. Et vous savez pourquoi? Parce que dans les années 70, où la fédération protestante était relativement politisée, elle était anti-militariste. Et donc les réformés luthériens qui étaient dans cette vague-là refusaient tous les postes d'aumônier aux armées. Du coup, les Baptistes, bah, hop, ils se sont enfilés. Et aujourd'hui, une terrible réformée, ils sont jaloux. Parce qu'on a tous les postes, mais on leur rend peu à peu. Moi, c'est une juste petite anecdote. Alors, il y a aussi, évidemment, du côté de la Fédération protestante, en termes de représentation auprès des pouvoirs publics et de lobbying auprès des pouvoirs publics, il y a une force qui est sans équivalent par rapport au CNEF. Hein. Il faut être objectif. Et puis, aussi, toute une capacité de dialogue avec les chrétiens en général, que n'a pas le CNEF. Je dirais que le CNEF ne cherche pas, pour l'instant. Nous sommes approchés par les catholiques actuellement, qui souhaiteraient bien que nous rejoignions le Conseil des Églises chrétiennes de France. Mais je ne sais pas si au niveau du CNEF, ça va passer. Un certain nombre de mes collègues se font tirer l'oreille. On a une rencontre la semaine prochaine à ce propos-là. On verra bien. Du côté du CNEF, je dirais que c'est plutôt du côté, d'une part, de tout le mouvement d'implantation d'église. Vous avez entendu parler d'une pour 10 000. Ça vous dit quelque chose? L'objectif d'implanter une église évangélique pour 10 000 habitants en France. Pourquoi cet objectif? Parce que, d'un point de vue de la sociologie religieuse, c'est le seuil à partir duquel il y aurait une visibilité suffisante des églises évangéliques pour que un Français moyen puisse avoir à portée raisonnable une église évangélique à laquelle il pourrait assister. Actuellement, la moyenne nationale est d'une pour 30 000, une église pour 30 000 habitants. Et donc, en gros, nous nous sommes dit, bah, plutôt que de faire chacun dans son coin son petit commerce, collaborons, essayons de faire le travail ensemble. Et nous, quand nous disons ça, ce n'est pas un vœu pieux, nous avons mis en place des centres de formation sur le plan régional, un master d'implantation d'église à Vaux-sur-Seine et d'autres outils dont je pourrais vous parler plus en détail mais en privé si vous le souhaitez. Et nous avons du côté du CNEF tout un service juridique qui fonctionne parce que, vous le savez, nos églises font face de plus en plus à des contraintes réglementaires et légales qui sont complexes, qui échappent à beaucoup d'entre nous, et nous rémunérons une juriste à mi-temps, et nous avons un site, et donc c'est un des services qui est très apprécié au CNEF pour aider les communautés diverses et variées à savoir comment défendre leur situation devant les municipalités, par exemple, etc. Nous avons évidemment un annuaire. Alors, si vous connaissez, si vous allez sur Internet, vous avez la version numérique plus intéressante que la version papier qui s'appelle église-au-pluriel.org. Et vous avez le recensement de tous les lieux évangéliques en France, département par département et ville par ville. Voilà. Et nous avons un projet, pour vous donner aussi encore un exemple, nous avons des idées de projets assez importants. Nous espérons faire un rassemblement de jeunesse de 6000 jeunes en juillet 2017, de 3 jours, qui s'ouvrirait sur une dizaine de jours ensuite de répartition en France dans des projets du style Bouge ta ville. Vous connaissez Bouge ta ville, hein ? Donc on voudrait rassembler les jeunes en un point encore non déterminé. Parce que trouver un endroit pour mettre 6000 jeunes, ce n'est pas une mince affaire. Et ensuite, trouver, 6000, ça va nous faire au moins 1000 lieux où ils vont pouvoir, peut-être pas 1000 lieux, mais 800 lieux où ils vont pouvoir intervenir, ça va faire du sport. Mais ça, on peut le faire uniquement parce qu'on est ensemble. Parce qu'il se trouve que il y a de nos membres du comité représentatif qui est à la tête des Royal Rangers, ça vous dit quelque chose ? Ce sont les scouts pentecôtistes. Et il a réussi un rassemblement de 6000 jeunes européens dans la ville du Havre. Il nous a dit, moi si vous voulez, je fais la même chose, mais au niveau des jeunes français. On lui a dit, top là. Parce que trouver quelqu'un qui sait faire ce genre de choses, ça ne court pas les rues. Hein. Parce que c'est une sacrée logistique. Voilà, pour donner quelques exemples.
Un exemple dans le même sens, c'est que à Strasbourg, fin de l'année, il y aura un rassemblement de la communauté de Thésée qui va regrouper 20 000 jeunes. Mmh. Et donc, les églises catholiques, protestantes et autres sont invitées à héberger les jeunes qui viennent de toute l'Europe. Donc, ça va jusqu'à 30 km autour de Strasbourg. Alors, ma question, c'est dans quelle mesure peut-on s'impliquer avec des communautés comme Thésée ou aussi le Chemin Neuf, qui est une communauté ecuménique. Et oui, j'aimerais juste avoir votre avis sur cette question. Parce que, également, c'est une application pratique, forcément.
Alors là, c'est le président du CNEF qui vous répond. Je n'ai pas vocation à dire aux églises évangéliques ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vous donne un autre exemple. Vous savez que le protestant, en fait, qui vient d'avoir lieu à Paris, doit se faire à Lyon. La section locale du CNEF, qui s'appelait autrefois l'Appel, qui est une grande pastorale, le secrétaire général m'appelle et me dit « Étienne, on nous sollicite pour être participant à un protestant, en fait. Qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit, quelles sont vos relations sur le plan local? Si ça rentre dans la logique de vos relations, je ne vois pas pourquoi le CNEF vous interdirait de vous impliquer là-dedans. Je ne suis pas pape, je vous assure, je ne suis pas pape. Alors évidemment, si je le dis par rapport au CNEF, c'est qu'à la Fédération protestante, ça paraîtra plus naturel. Il faut être honnête. Ça paraîtra plus naturel à cause de l'ouverture œcuménique. Mais moi, j'estime que le CNEF n'a pas à dicter. Ce que je sais, c'est que vous aurez des évangéliques qui vont vous suivre et d'autres pas. Là, je peux vous le dire à l'avance. Il y aura peut-être des lignes qui vont bouger, mais je sais à peu près qui va vous dire non. Mais c'est formidable.
C'est la.
D'autres doigts qui se lèvent?
J'ai encore une question. Je participe depuis 28 ans à un dialogue œcuménique avec les catholiques et avec les réformés, aussi depuis les orthodoxes depuis un temps. Et depuis après 12 ans, en participant au dialogue interreligieux, aussi avec la synagogue de Lunéville et la communauté islamique. Ça nous a ouvert plein de portes, et je peux seulement vous dire aux autres personnes dans la salle qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de son identité, parce que les gens veulent connaître notre identité. Les gens veulent savoir qui on est, qu'est-ce qu'on croit, d'où on vient. Donc on n'a pas besoin de la cacher parce que les gens veulent la connaître. Mais maintenant, la question que j'ai, c'est si je voudrais demander à d'autres membres de mon église de faire ce genre de choses, plutôt que de parler sur moi-même ou avec mon épouse, et vous avez dit, ça doit être des gens qui sont bien dans leur basket. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ce que je voulais dire par là?
Oui. Je peux préciser, oui. Très souvent, d'un point de vue psychologique, ceux qui défendent le plus, de façon le plus agressive leur identité sont les gens les moins sûrs d'eux. C'est-à-dire qu'ils traduisent par cette façon de se défendre en réalité une insécurité personnelle. Ils se sentent menacés. Évidemment, ce genre de personnalité, si vous les envoyez dans des cercles de dialogue, le dialogue va très vite se terminer. Quand je parle de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, c'est quelqu'un qui sait en quoi il croit, il sait pourquoi il y croit. Et il ose aller fréquenter des gens qui ne croient pas comme lui, sans se sentir menacé. Il me semble que la maturité à laquelle la foi nous appelle devrait nous entraîner dans cette voie. D'être capable de dire en qui nous croyons, sans nous sentir menacés par ceux qui ne croient pas, par ceux qui croient différemment, etc. Voilà, donc je ne peux pas dire beaucoup plus. Je dirais que c'est une question de personnalité, de psychologie. j'ai eu affaire à un dialogue, alors je ne citerai pas de nom, mais nous avons commencé un dialogue avec les luthériens et les réformés en tant que baptistes à la Fédération protestante. Luthérien de service, à la première réunion, nous dit « De toute façon, tout a déjà été discuté, il n'y a rien à dire, il suffit de passer à la pratique », d'un ton le plus méprisant que vous pouvez imaginer. J'ai essayé de lui faire comprendre, de lui faire entendre que s'il avait certes discuté au niveau mondial, il fallait peut-être qu'il discute aussi avec les Français, que ce n'était pas les baptistes français. Et ça a été, j'ai cru que le dialogue s'arrêtait. Hein. Alors je suis allé voir mes amis luthériens réformés, j'aurais dit, écoutez, vous voulez que le dialogue continue? Oui, ben envoyez-nous quelqu'un d'autre. Parce que là, au train où c'est parti, ça va finir par un pugilat, on fera rien. Alors, si vous n'avez pas envie de dialoguer, vous sautez sur l'occasion. Hein. Vous allez regarder-les comme ils sont impossibles. En l'occurrence, c'était un phénomène très connu dans leur milieu, d'ailleurs. Hein. Donc, tout le monde m'a dit « Ah oui, ça ne vous étonne pas. » Donc, j'ai dit « Bah, si ça ne vous étonne pas, merci de nous sortir de nous sortir d'affaire. » Voilà. Alors, quant à dire s'il est insécure, j'en sais rien. Ce n'est pas mon problème. Mais vous voyez comment, des fois, c'est des questions de personnalité. Mais vous l'avez vu. Vous avez des... Alors, si vous avez un pasteur qui est bien dans ses baskets, il va développer toutes sortes de relations. S'il est un peu craintif, vous allez avoir l'assemblée qui a tendance à se replier un peu sur elle-même parce qu'elle a tendance à marcher au rythme de son pasteur. Peut-être que vous découvrez ça, mais c'est un peu la réalité.
Par rapport à cette question d'être bien dans ses baskets, il y a eu une série d'événements dans notre pays ces derniers mois où l'éthique a été remise vraiment de fond en comble en question. Et à ce sujet, j'ai quelques inquiétudes par rapport à nos communautés évangéliques qui ont justement une crainte de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Et dans ce sens, par rapport à ce que nous avons vécu et de ce que j'ai ressenti, j'aimerais juste vous partager quelques mots que j'avais préparés. Alors, je voudrais simplement nous inviter à la vigilance par rapport à ce que nous vivons actuellement dans notre pays. La mise en place de la loi, de lois iniques, on peut les appeler comme ça, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, confirme plus que jamais la volonté d'évincer Dieu de notre cercle humain. Plus encore, de le défier, je dirais même, avec un bras d'honneur. Mon propos n'est pas de dire qu'il nous faut chercher à défendre Dieu. Il a tous les moyens dans ses mains pour arrêter la folie des hommes. Mais il est de notre devoir de dire clairement la parole de Dieu. Pour les hommes, toutes les paroles, même celles qui dérangent, même les paroles qui nous dérangent nous-mêmes. Dieu ne va pas battre le pavé à notre place. À force de ne plus appeler le péché par son nom, notre conscience s'émousse et avec l'aide de la psychologie, on l'explique au lieu de le confesser. L'expression « c'est humain » n'en est que l'illustration. Ce phénomène s'introduit aussi dans nos assemblées d'origine anabaptiste, où le baptême n'est même plus un des fondamentaux. Où est donc cette radicalité que nos prédécesseurs du XVIe siècle, dont on parle tant, nous ont léguée? Leur courage leur a coûté la vie. Prenons exemple sur eux, et avec courage et détermination, mouillons notre chemise et interpellons nos concitoyens et responsables politiques. Prenons chacun le sac et la cendre, pour reprendre l'expression de l'Ancien Testament, et humilions-nous pour nos manquements devant le roi des rois. Chacun pour ce qui le concerne, chacun avec les responsabilités qu'il a. Humilions-nous pour notre pays aveuglé par le diable. Humilions-nous pour nos assemblées qui sont touchées, aussi touchées par la confusion dans ce sens, en ne prenant plus la parole de Dieu au sérieux. Il en va de sa gloire, il en va de notre propre salut. Que le Seigneur lui-même nous éclaire et nous vienne d'en être.
Alors voilà, c'est quelque chose, c'est une réflexion personnelle, un partage d'un souci. Je ne suis de loin pas le seul à penser un peu ces questions, mais j'avais à cœur de le partager. Ça va aussi dans ce dialogue interreligieux. Adhérer à des fédérations plus larges, c'est pour y faire quoi? C'est pour devenir meilleur ou c'est pour devenir pire? Mais voilà, c'est la question.
Si je peux faire quelques remarques, la première, c'est il ne faut pas mélanger interreligieux et œcuménique. J'observe qu'il y a un glissement de plus en plus fréquent entre les deux. Ce n'est pas la même chose. L'œcuménisme est un dialogue entre chrétiens. L'interreligieux est un dialogue entre tenants de différentes religions. Ça, c'est une première chose. La deuxième, on peut avoir des dialogues avec toutes sortes de gens, y compris d'autres religions, tout dépend de l'objectif qu'on poursuit. Je pense qu'au titre de la paix civile, que le pasteur puisse rencontrer l'imam et s'efforcer que les rapports soient courtois ne me semble pas déplacé. Il me semble que ça fait aussi partie du témoignage. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que tous les chemins mènent au ciel. Là, ce serait problématique. Hein, qu'on soit bien d'accord. Concernant la remarque que vous faites, j'amène un peu d'eau à votre moulin. Il y a deux sondages IFOP qui ont été faits ces dernières années sur les convictions des protestants en matière d'éthique, qui ont montré, un, que pour 15% des gens qui se situent dans la mouvance évangélique, l'homosexualité ne pose pas de problème. 15%. C'est pas rien. Hein. Et pour moi, c'est le signe qu'on n'enseigne pas sur ces questions. Mais il faut dire aussi que si nous nous mettons à enseigner très clairement sur ces questions, nous aurons aussi un certain nombre de difficultés. La deuxième chose, c'est concernant l'euthanasie. Alors là, c'est un chiffre qui m'a beaucoup plus surpris. Quand on pose à des évangéliques, à des gens qui se situent dans la mouvance évangélique, ce qu'ils pensent de mettre fin à la vie pour cause de souffrance, 60% sont pour. 60%. Je suis sidéré. Est-ce que la question a été mal comprise? Est-ce qu'on parle si peu de ces questions qu'on laisse chacun devant sa souffrance, et du coup il fait comme il peut? Mais c'est tout à fait préoccupant. Troisième chose, nous sommes loin d'être les seuls en France à nous préoccuper de l'évolution des lois. Et je défends l'idée qu'il faut avoir le courage de co-belligérer. C'est-à-dire de mener le combat, y compris avec des gens dont on ne partage pas forcément toutes les idées. Je pense aux catholiques. Nous avons sur un certain nombre de positions, des proximités, avec des bases théologiques différentes. Hein. Il ne faut pas nous faire d'illusions. On arrive à des résultats relativement voisins, mais pas à partir tout à fait des mêmes réflexions. J'ai des amis évangéliques qui me disent « Ah non, non, jamais avec un catholique. » Je dis « Mon pauvre, si tu commences comme ça, on va être d'aller tout seul dans notre coin à dire « Il n'y a que nous qui savons les choses. » Ça me paraît tout à fait déplacé. Dernière chose que j'aimerais dire, alors je crois que je retiens mal l'expression biblique, donc vous vérifierez comme les Béréens dans votre Bible. Il est demandé par le Seigneur que nous soyons rusés comme des serpents et simples comme des colombes. Alors c'est sur le rusé que je ne suis pas sûr. Je crois que ce n'est pas tout à fait l'expression. Il faut être intelligent dans ce que nous faisons. Il faut être ferme mais intelligent. Je reviens du Brésil, où il y a un de mes étudiants que j'ai formé à Nogent-sur-Marne, il me dit, mais tu sais, actuellement au Brésil, celui qui fait le plus de dégâts, c'est un pasteur qui a décidé de casser du sucre sur le dos des homosexuels, et il dit aujourd'hui il est en train de ruiner le témoignage évangélique. Alors entendez bien, cet ami ne me dit pas l'homosexualité est bien, Il dit qu'il y a une façon de prendre position qui crispe tout le monde et rend inaudible le message. Comment faire entendre à la fois notre désapprobation de cette évolution et notre capacité à accueillir ceux qui, pour l'instant, n'ont pas d'autre horizon que celui-là. C'est une ligne de crête difficile à tenir. Et je dirais, médiatiquement, absolument inaudible. Mais néanmoins, je crois que nous devons nous tenir là. Ferme dans nos convictions, mais aimant dans notre accueil. Je pense qu'il n'y a pas d'autre voie possible. Alors après, faut-il battre le pavé, comme l'ont fait certains, le CNEF en a été au début. Vous devez savoir quand même qu'il ne faut jamais sous-estimer les récupérations politiques qui sont faites. Nous sommes allés à la première manifestation et déjà à la deuxième, nous avons mis le frein parce que nous avons vu l'extrême droite commencer à et l'UMP commencer à récupérer la manifestation. Nous n'avions pas spécialement envie d'être récupérés politiquement, même si nous pensons que le combat en valait la peine.
Je rebondis sur cette question, justement. C'est une question toute pratique concernant ces questions de société, ces débats de société, et aussi des conflits qui ont lieu, des conflits en Syrie notamment. Comment et qui font les... On a pu le dire, on a communiqué CNEF ou FPF. Comment et qui prend l'initiative de rédiger ces communiqués?
Alors, à la FPF, c'est souvent le président avec le bureau. Autour de lui, vice-président, il y a deux vice-présidents, secrétaires, etc. Parfois, c'est la responsable de la communication qui va dire au président « Attention, il faudrait quand même qu'on se prononce sur ce sujet. » Du côté du CNEF, c'est assez semblable puisque les communiqués sont... c'est moi qui en suis à l'origine avec le vice-président Daniel Michy et nous sommes épaulés dans la rédaction par le directeur de la communication, Thierry Le Gall, et à l'instant, que vous connaissez peut-être. Voilà, en gros, hein. Alors, la question c'est, par exemple, nous n'avons pas fait de communiqué, nous, sur l'international. Hein. Nous sommes très peu présents sur l'international, ce que fait la Fédération protestante de France. Pour une raison simple, c'est que nous sommes une toute jeune organisation, nous avons peu de moyens et nous essayons de cibler ce que nous faisons. Et nous n'arrivons pas à tout faire. De telle manière, d'ailleurs, que nous avons décidé... dans les relations avec le ministère des Affaires étrangères, de déléguer Michel Barton, ou situer Michel Barton de Portes Ouvertes, non pas en tant que directeur de Portes Ouvertes, mais en tant que Michel Barton, pour suivre la question des chrétiens persécutés dans le monde. Parce que notre directeur ne peut pas être au four et au moulin. Voilà un petit peu comment les choses se décident. Non, il n'y a pas de comité d'éthique du côté. Il n'y a pas de comité d'éthique qui est directement l'émanation du CNEF. Nous avons recours au travail que fait la commission d'éthique protestante évangélique, qui est en fait le regroupement des libristes, baptistes, églises réformées évangéliques. Je me demande si Frédéric de Coninck n'en est pas. Qui est un regroupant d'une partie des évangéliques, et alors nous avons un partenariat avec eux. Mais très souvent, la difficulté de la communication, elle est double. C'est que vous devez communiquer vite, parce qu'il faut être dans le temps de la communication si vous voulez vous faire entendre. Le problème, c'est que vous, en même temps, vous ne devez pas dire de bêtises, ce qui est contradictoire. D'ailleurs, vous savez que les grands médias disent beaucoup de bêtises, parce qu'ils vont très vite, hein. Deuxième chose, il ne faut pas parler tout le temps parce que plus vous parlez, moins on vous entend. Donc il faut mesurer votre parole. Et pour l'instant, nous, on est au stade de l'apprentissage. Ça fait que 3 ans qu'on existe.
J'ai peut-être une question pour suivre la question de Jean. Est-ce qu'il y a des relations au niveau des instances CNEF et FPF aussi dans ce domaine-là pour et s'il n'y en a pas, quelles sont les relations entre les deux instances?
Alors, il y a des relations. Nous avons deux fois par an des rencontres entre nos deux bureaux. Et nous allons les avoir la semaine prochaine. Nous allons avoir l'une d'elles la semaine prochaine. En général, à l'automne et l'autre au printemps. Nous faisons le point sur nos actualités respectives. Paradoxalement, le fait que le président sortant était un évangélique a compliqué les affaires. Mais c'est un peu compréhensible. Pour lui, évangélique arrivant à la tête du CNEF, voir que des évangéliques s'organisent pour faire quelque chose en dehors de la... Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous m'avez compris ? Le président de l'AFF étant évangélique, de voir que des évangéliques faisaient un CNEF était pour lui vécu comme une trahison.
Des abus.
Donc du coup, pour lui, ça a été très compliqué. Il a mis de l'eau dans son vin. Nous en avons mis aussi dans le nôtre. Au début, ça a été un petit peu chaud. Mais on n'a pas pu aller très loin dans nos relations. François Claveroli, depuis qu'il est président, m'a tout de suite demandé de le rencontrer. Nous avons eu un rendez-vous de 2 heures. Nous avons longuement discuté. Il souhaiterait qu'on fasse plus de choses ensemble. Entre autres, il souhaiterait, alors je ne sais pas si ça va se faire, mais il souhaiterait qu'on prépare ensemble les célébrations du 500e anniversaire de la réforme en 2017. Voilà, c'est intéressant en tout cas que l'église dite historique ne préempte pas toute la réforme à eux seuls.
Je voulais remercier la MEF de nous avoir convoqués avec ce sujet-là, mais parce que on aurait tendance à pas trop vouloir se mêler d'union évangélique à cause de la mauvaise presse de ce qui est évangéliste et tout ça. Et comment faire pour freiner cette mauvaise réputation? Et ça fait plaisir d'entendre que vous y avez travaillé déjà au niveau pratique, mais il faut quand même avouer que c'est vraiment une très mauvaise presse, les évangélistes, et du coup on dit aussi évangélique. Alors c'est un peu difficile, on a l'impression que ce serait mieux de faire partie de la FPF parce que on n'a pas su cette mauvaise presse-là. Voilà. Donc c'était bien d'avoir entendu un petit peu tout ce qui se passe du côté du CNEF pour essayer de freiner ce côté-là.
Vous savez, la chose qu'on fait en réalité, et ça a été un des éléments qui, je crois, objectivement, a poussé les évangéliques à se réunir, la mauvaise presse qui leur a été faite. En fait, elle a été de deux ordres. Il y a eu ça, les médias, et il y a eu les rapports parlementaires, qui dans les années 90 ont épinglé plusieurs fois des unions évangéliques sans réellement de fondement. Et vous savez que le problème d'un rapport parlementaire, c'est qu'il n'est pas attaquable. Sauf qu'il est diffusé. Vous êtes content. Mais on ne peut rien faire. Parce qu'il y a eu à l'époque des discussions avec le rapporteur pour lui dire, mais quand même, vous avez épinglé, alors... Vous aviez une union d'église qui est venue l'union des assemblées protestantes en mission. Elle a été épinglée comme ça, tac, dans le rapport parlementaire. C'était une union pentecôtiste, sauf à dire que les pentecôtistes sont des sectes. Elle n'avait rien de très caractéristique en dehors de ça. Donc ça, objectivement, ça a poussé les évangéliques à travailler à leur visibilité, à leur lisibilité. Ensuite, la deuxième chose, c'est que notre directeur de la communication, qui est un professionnel de la communication, qui a travaillé 17 ans pour le groupe Ferrero, ça vous dit quelque chose, qui a une pratique des médias, il fait le siège régulier des grands journaux qui influencent les médias et des ce qu'on appelle des faiseurs d'opinion en matière religieuse. Pour faire entendre que évangélique et évangéliste, ce n'est pas la même chose, que les évangéliques ne sont pas des inféodés aux États-Unis, etc., etc., enfin tous les poncifs habituels. Et pour vous donner un exemple des choses que nous avons fait, il a, sur son initiative et avec notre accord, invité les faiseurs d'opinion de la presse religieuse et qui sont repris dans la grande presse. C'est-à-dire que nous avons reçu, alors des gens très connus chez nous, c'est Jean-Paul Willem, le sociologue Sébastien Fatt, alors là on est presque en famille, mais Frédéric Lenoir, Georgina Dufoy. Alors, on a voulu inviter Christine Boutin. On était un peu hésitant. Parce qu'elle a parfois été d'une maladresse insigne. Et finalement, ça ne s'est pas fait et on a laissé courir. Et on a invité, j'oublie maintenant, on a invité aussi Patrice de Planquette. Ça vous dit quelque chose ? Un journaliste catholique qui a fait toute une enquête. Alors, il a fait un livre, on lui a demandé pourquoi, hein. Les évangéliques, la secte à la conquête du monde. On lui dit, oh là là, alors que l'intérieur est très bien fait, on lui dit, pourquoi tel titre ? On nous a regardé, il nous a dit, vous savez, c'est la seule manière de vendre. Voilà, donc c'est ce travail-là qu'on essaie de faire.
Je voudrais juste donner un petit témoignage. Tout à l'heure, vous avez dit que les Mennonites sont attendus. Et effectivement, le pasteur Stussy, qui est responsable du musée au Berlin, donc au milieu du protestantisme en Alsace, nous a dit qu'il a constaté qu'énormément de gens veulent savoir qu'est-ce que c'est que les Mennonites, les Anabaptistes, qu'il y a vraiment une soif de connaissance, une soif d'information. Donc voilà, moi je trouve ça encourageant. Et lui-même, il a trouvé ça assez surprenant, alors que bon, le pasteur au Berlin n'était pas spécialement Mennonite. Mais voilà, donc les Mennonites sont attendus.
Voilà, je crois que nous arrivons au bout de ce temps. Alors peut-être encore une dernière question. Je vois Didier, si tu me promets que ce n'est pas une question qui nous emmène dans trois quarts d'heure de débat. Ok. Une dernière question alors. Ah pardon, j'ai pas vu, j'ai mis Didier. Alors deux dernières questions. C'est plus la peine de lever la main après.
Ben, merci pour cette présentation. En fait, on l'attendait avec intérêt parce que tu avais justement la double appartenance aux deux organisations. Bon, sur le CNES, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui pose problème. Par contre, en tant qu'évangélique à la Fédération protestante de France, j'imagine qu'il peut y avoir, du fait du libéralisme, un certain nombre de couleuvres à avaler, de choses où on n'est pas d'accord, où on estime que c'est vraiment contraire à ce qu'on estime biblique. Comment est-ce qu'en tant qu'évangélique, on peut arriver à gérer ce genre de situation ?
Honnêtement, il y en a moins que ce que vous pensez. Parce qu'il n'y a pas tant de prises de position problématiques. Alors, quand elles le sont parfois gratinées. La deuxième chose, ça dépend quelle position vous voulez tenir dans la Fédération protestante. Si vous pensez rencontrer des gens qui pensent comme vous, je crois qu'il vaut mieux pas que vous y alliez. Vous allez rencontrer des gens qui ont des origines en partie communes, qui ont un souci en partie commun, mais évidemment des théologies diverses. Et je dis bien des théologies, hein. Il n'y a pas une théologie libérale d'un côté et une théologie évangélique de l'autre, hein. Le paysage est un peu plus compliqué que ça. Et donc après, à vous de voir si vous vous sentez prêt en tant qu'union dans votre identité à assumer le fait que oui, vous faites partie d'un ensemble et vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout ce que dit cet ensemble. Et l'habitude qui est prise à la Fédération protestante, ce n'est plus de dire nous pensons tous ça. Dans les textes aujourd'hui, c'est beaucoup plus les différentes positions au sein du protestantisme sont. Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est que le président, mais c'est normal, c'est inévitable, le président parle au nom des protestants. Et donc, à des moments, vous vous sentirez bien représenté, à d'autres moments, vous vous direz, bof. Mais j'ai le même problème, hein. Je suis président, donc j'ai quand même une certaine représentation. Ben, je ne suis pas sûr que tous les évangéliques du CNEF sont toujours ravis. Je suis allé deux fois dans les états généraux du christianisme qui sont organisés par la vie, une fois à Lille, une fois à Lyon, présenter le point de vue évangélique, une fois sur l'évangélisation, une fois sur le pouvoir à l'Église. Bon, les échos qui me remontent, c'est qu'une partie du public du CNEF dit « Mais pourquoi notre président va chez les cathos ?» Moi, je leur réponds « Mais on a intérêt, dans un pays à majorité catholique, à plutôt être bien connu et apprécié par eux. Ça aide. »
en dehors du fait que, comme je vous l'ai dit, j'y compte des frères. Moins de sœurs parce que j'en connais moins.
Moi, ce sera une remarque et une question qui appelle une réponse très brève. La remarque, c'est dans ce que je viens d'entendre, il y a un défi que tu n'as pas cité dans cette double adhésion, c'est le défi de l'orgueil. Tu nous brosses dans le sens du poids, là tu nous dis vous êtes attendu, les mélos c'est super, vous avez plus de poids que votre présentation sociologique, ça fait peur. Il faut qu'on reste modeste et je ne suis pas sûr que ce soit notre qualité première. Bon, il fallait que je me lâche là. La question, c'est un peu plus sérieux. Comme beaucoup d'évangéliques, je pense, notre souci premier est la fidélité aux Écritures. Et ma question appelle une réponse par oui ou par non. Je pense que j'ai compris la réponse, mais je préférerais que tu l'entendes encore une fois. C'est est-ce qu'on est plus fidèle aux Écritures par cette adhésion, et y compris par cette double adhésion, ou est-ce qu'on s'éloigne ?
Une question simple. Vous en avez une autre ?
Un joker.
Je suis profondément convaincu que notre place, c'est d'être des témoins. Et qu'être des témoins au sein du CNEF et de la FPF fait partie des choses dans lesquelles le Seigneur nous engage. Voilà ma conviction. Maintenant, à vous de voir.